Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et surtout, bonne rentrée à tous, je suis ravie de vous retrouver dans C'est ça la France, votre émission consacrée aux entrepreneurs qui font le pari du Made in France. C'est aussi la rentrée justement du Made in France. Lundi 1er septembre et mardi 2 septembre dernier, il y a eu lieu le salon Made in France Première Vision au Carreau du Temple à Paris. Donc c'est ce salon dédié à l'industrie de la mode qui innove, qui crée sans cesse. C'est là où se rassemblent les fabricants de la filière française, les tisseurs, les tanneurs, les fabricants d'accessoires, les confectionneurs, avec cette année près de 195, je crois, exposants issus de la France entière. C'est l'occasion de découvrir justement des talents qui innovent dans ce domaine, comme par exemple du tricotage en 3D entièrement automatisé, qui s'appuie sur les dernières technologies existantes, on en parlera tout à l'heure, ou encore une autre entreprise du côté de Perpignan, pour qui le volet social est au cœur même de la stratégie de l'entreprise. Mais tout de suite, je vous propose de faire le bilan de ce premier salon consacré au Made in France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Chantal Malingré, directrice du salon Made in France Première. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors vous êtes contente de cette édition qui a lieu il y a quelques jours, en début de semaine ?
Oui. On est extrêmement contents à plusieurs titres, parce que déjà, c'est le premier salon professionnel de la rentrée. Qui est sous la jauge des 5000, donc qui a pu avoir l'autorisation de la préfecture pour avoir lieu. Donc ça, c'était bien pour la filière événementielle. Et deux, d'avoir pu rassembler, comme vous l'avez dit, l'ensemble des fabricants français et auprès des marques de mode, ça a été formidable. On a eu 3500 visiteurs sur les deux jours. Donc, on a senti à la fois une vraie envie de se re-rencontrer.
C'est important de retrouver les chemins des salons. Les salons sont vraiment primordiaux pour tous ces acteurs de la filière mode. Et je rappelle que vous êtes le premier rendez-vous professionnel de l'agenda de la rentrée là, pour cette filière mode.
Exactement. Et vous avez tout à fait raison. C'est essentiel de pouvoir tenir des événements qui contribuent à la relance économique du business. Ça, c'est, et en tout cas, du nôtre.
Alors justement, en parlant de relance économique, ce salon, il prend une dimension supplémentaire avec les annonces, après les annonces gouvernementales, de relocalisation, de souveraineté nationale. Donc ça faisait partie des thématiques qui ont été débattues dans le cadre de ce salon.
Oui, exactement. Notre fil rouge des conférences qui ont eu lieu pendant les deux jours, avec, je dirais, un point d'orgue, puisque nous avons eu la participation via visioconférence de Madame Bannière-Runacher, qui a confirmé, je dirais, l'importance de relancer la filière mode en France.
Certains fabricants un peu isolés ont pu se rapprocher d'autres. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie force vive, que ces fabricants étaient indispensables pour nous permettre justement d'être protégés dans un premier temps, le temps de recevoir aussi les masques, on va dire, jetables. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup délocalisé.
Oui, exactement. Et c'est sûr que donc la filière s'est mobilisée, a rendu les choses possibles. Il y a des millions de masques qui ont été fabriqués et qui continuent à être fabriqués. Ce qui leur a permis aussi à cette industrie de pouvoir tenir aussi cette période très compliquée et de pouvoir s'en sortir.
Du coup, il y a l'après qui est important, parce qu'ils vont pas non plus faire des masques toute l'année.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça a permis de mettre en exergue, mais maintenant il faut en effet que c'est une très belle opportunité de pouvoir faire en sorte de relocaliser, réindustrialiser aussi la filière. Et je dirais que ça, c'est aussi... Il y a une prise de conscience aussi de la part du consommateur qui souhaite davantage mieux connaître et mieux savoir d'où vient son produit, qu'est-ce qu'il porte.
C'est ça, la traçabilité est importante. Oui.
Voilà, d'où vient... comment mon produit est fabriqué, d'où vient ma matière et comment il a été fait. Et ça, il y a un sens qui apparaît très fortement au niveau de la consommation française, et ce qui permet, ou ce qui va permettre, ou ce qui doit permettre en tout cas, de redonner aussi confiance et un levier auprès des fabricants français. Donc, il y a cet effet aussi consommation, donc qu'est-ce que je mets, la traçabilité, oui. La notion de circuit court, le fait d'avoir aussi des produits de qualité, fabriqués de manière qualitative, créative aussi, et durable.
Donc tout ça devrait permettre de continuer à relocaliser toute cette industrie du textile. Et d'ailleurs, on va le voir juste après vous, puisqu'on aura en témoignage une entreprise qui met au cœur de sa stratégie les valeurs sociales, justement. Donc là, on y revient à donner du sens à ce que l'on fait. Et une autre entreprise qui, elle, a innové dans sa façon de fabriquer, de façon justement à permettre à des industriels de réduire leurs coûts, tout en étant beaucoup plus flexibles et en gardant le savoir-faire sur le territoire français. Merci beaucoup Chantal Malingré. Je rappelle que vous êtes directrice du salon Made in France Première. Merci pour cet éclairage et puis nous aurons bien évidemment l'occasion au cours de l'année de refaire un point sur cette industrie du textile, voir comment est-ce qu'elle se relocalise.
Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
Merci à vous et bon dimanche.
Au revoir. Merci, au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Michael Maras. Bonjour Michael.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à la tête de Perpigne. Cette très très jolie entreprise. Alors, entreprise et association, on est vraiment entre les deux.
Alors,
là.
C'est une entreprise, mais de l'économie sociale et solidaire, qui correspond à une catégorie nouvelle dans le code de commerce. C'est-à-dire qu'on est comme une entreprise normale, entre guillemets, pour être rentable. On ne vit pas, contrairement aux idées reçues, sous perfusion de subventions. On est dans le secteur marchand. Mais c'est ce qu'on fait avec ces bénéfices qui relève de l'économie sociale et solidaire et qui est particulier. Nous, notre but, c'est d'employer des gens.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les valeurs sociales sont au cœur même de l'idée de cette entreprise.
Bien sûr. C'est le fondement. Comme j'ai expliqué sur le salon Made in France Première Région où nous avons été, on a fait un petit buzz, ça s'est très bien passé. Je reviens, c'est hier et avant-hier à Paris. Moi, je ne mesure pas le succès au chiffre d'affaires, bien qu'il en faut, mais au nombre de gens que l'on peut. Aujourd'hui, en un an, on est passé de 0, puis 6, puis 40 emplois.
De 6 à 43, plus de 40 emplois. Ce qui est une belle croissance. Et une entreprise qui a été créée il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an seulement, à peine.
Elle a commencé les premiers t-shirts qui étaient un peu tordus, forcément, puisqu'on va en parler. Mais on a appris à des femmes exclues, en situation d'exclusion grave, à coudre. Et autres.
Des femmes issues de la communauté gitane de Perpignan, essentiellement. Donc il a fallu les former à ces métiers de couturière.
Complètement, en sachant qu'en plus, on n'avait aucun dispositif de formation classique à disposition.
Alors dites-moi, Michael Maras, vous n'êtes pas en train de marcher là? Vous faites un marathon en même temps que vous faites
un interview? Ah oui, alors j'arrête de marcher. Allez,
je vous sens un peu essoufflé. Non, mais il n'y a aucun souci. En tout cas, on vous capte très bien, c'est le plus important. Donc c'est vrai que l'atelier Perpigne fabrique entièrement. La découpe, la couture, tout, la sérigraphie, tout se fait dans son atelier.
Voilà, on reçoit la bobine de tissu de notre fournisseur français, c'est important, puisque non seulement on est un peu les seuls sur ce produit à faire de la confection entièrement au même endroit et en France, mais on utilise de surcroît un tissu français et issu de textiles et plastiques recyclés. Ouais. Effectivement, c'est très très important de souligner qu'on fait toutes les opérations, heureusement c'est pas moi qui les fais, ce sont des manufacturières. Pourquoi? Parce que c'était le ressort de départ de dire on va essayer de relever la fierté d'appartenance à un quartier, à une communauté qui est sans arrêt stigmatisée et marginalisée pour plein de raisons et de dire on va relever la fierté donc d'appartenir à un quartier. Donc
le quartier Saint-Jacques à Perpignan, c'est bien ça?
C'est le quartier Saint-Jacques à Perpignan qui est un quartier le plus pauvre de France et peut-être même d'Europe puisqu'on est à 90% de chômage, et surtout, et c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif, le plus grave, c'est que ça risque pas de s'arranger, puis quand on a 80% d'absentéisme scolaire, ce qui est le cas des enfants issus de la communauté.
80% d'absentéisme scolaire,
oui.
Et là, comment vous les avez convaincus, du coup, ces femmes, de faire partie de l'aventure? Est-ce que ça a été simple?
Non, extrêmement difficile, parce que, on va dire les choses clairement, quand on a une telle misère sociale et économique, c'est ce qui se passe. Les femmes sont les premières victimes. Vient une société qui devient extrêmement traditionnelle, très fermée, ghettoisée. Donc on a des phénomènes de mariage extrêmement précoce, voilà, de tout ce qu'on peut imaginer, que subissent les femmes dans cette situation de misère. Il y avait un petit peu moins maintenant, mais énormément de drogue et d'alcool, de maladies, de mortalité précoce. Donc vraiment, situation terrible où les femmes sont reléguées, comme partout ailleurs dans le monde et l'histoire, sont reléguées à la pire des situations. Voilà.
Et c'est comme ça que vous avez eu cette idée, c'est que vous connaissiez cette communauté, vous aviez envie de faire quelque chose pour elle, redonner vie à ce quartier.
Je m'occupe d'une association d'insertion par l'économie et par le travail qui œuvre notamment dans le quartier, mais pas seulement. Et on s'est implanté dans le quartier il y a quelques années, il y a 4 ans. Et du coup, c'est cette implantation, le fait qu'on a toujours été droit dans ce qu'on faisait, on a essayé en tout cas, je pense qu'on l'a été, la municipalité précédente nous a laissé être indépendant et recruter à la compétence et au mérite et pas selon, comme c'est parfois le cas de ce genre d'association, selon les demandes des politiques. Donc ça avait été respecté. Et du coup, on a redressé cette association de manière un peu spectaculaire. Et puis, on a gagné un petit peu de respect, de crédibilité. On était dans le quartier, donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc on a implanté l'atelier dans le quartier pour que les femmes puissent venir, parce que c'était très dur. Hein. Ce sont des femmes à qui on dit, non, tu ne dois pas côtoyer un local où il y a des hommes.
Ouais.
On en est là. Voilà.
Oui, et là, il y a eu effectivement beaucoup de personnes touchées hein, dans la communauté. Ça a été compliqué. Mais là, vous avez repris l'entreprise, c'est relevé. Pierre Pigne, alors juste pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, juste aujourd'hui, vous produisez combien de t-shirts, combien de jours par jour?
Aujourd'hui, on est capable de produire 1500 t-shirts par jour sans problème, 6000 masques par jour, moitié-moitié si on fait les deux en même temps. On est identifié comme le seul en France à faire ce qu'on fait. Du coup, on a des collabs avec des marques qui sont en négociation. On fait des t-shirts pour les entreprises également. Si Sud Radio veut un t-shirt, on lui fait sur mesure. Hein.
La fabrication sera française, solidaire et éco-responsable.
Et voilà, et c'est unique en France.
Merci beaucoup, Michael Maras. Je rappelle que vous êtes à la tête de Pierre Pigne, cette très très belle entreprise association.
Pierrepigne.fr.
Merci, je vous souhaite un bon dimanche.
Merci à vous, vraiment.
Au revoir. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes et cette fois-ci, on ira découvrir une entreprise du côté de Saint-Malo qui innove, qui propose un tricoteur innovant en 3 dimensions. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et on s'intéresse aujourd'hui justement à tous ces acteurs dans l'univers du textile qui innovent constamment. Et donc je vous propose tout de suite d'aller découvrir une autre start-up innovante et cette fois-ci du côté de Saint-Malo.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Et nous sommes en ligne avec Basile Riquier. Bonjour Basile.
Bonjour Nathalie.
De l'entreprise 3D Tex. Vous êtes à Saint-Malo, en Bretagne. Vous aussi, vous avez participé à ce salon Made in France Première Vision. Donc vraiment, ce grand rendez-vous consacré à l'univers du textile. Alors vous innovez dans votre manière de tricoter. Vous avez mis au point un tricoteur en 3 dimensions. Racontez-nous un petit peu tout ça.
Oui, tout à fait. Donc l'idée de 3D Tex, c'est de partir d'une innovation qui va permettre à l'entreprise d'être la plus performante possible et puis également de répondre aux demandes constantes du marché en ce qui concerne la réduction des coûts, la réduction des délais et puis le besoin de plus en plus pressant du consommateur de pouvoir fabriquer localement dans des conditions les plus justes possibles et de la manière la plus transparente.
Et avantageuse côté prix également.
Exactement.
Donc vous pensez que ça peut être justement une réponse à cette volonté aujourd'hui de relocaliser beaucoup de métiers, notamment dans l'univers du textile, et rester, on va dire, dans des coûts raisonnables pour les clients, pour les industriels?
Voilà, tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment relocaliser la fabrication en France en rendant l'offre la plus accessible possible tout en créant des emplois. Et de notre point de vue, c'est grâce à l'innovation que l'on peut y arriver parce que, comme on le sait tous, la main-d'œuvre en France, elle coûte ce qu'elle coûte. Mais c'est vrai qu'il y a des pays dans le monde, la concurrence pour nous, elle est mondiale dans le prêt-à-porter.
Bien sûr.
Des pays dans le monde dans lesquels la main-d'œuvre coûte un petit peu moins cher. Donc, en intégrant les toutes dernières technologies, on peut rendre l'offre à la fois attractive d'un point de vue prix, mais surtout, on arrive à travailler sur des délais de fabrication qui sont extrêmement courts, probablement les plus courts du marché.
Quoi comme délai, quand vous dites des délais courts, pour qu'on ait un petit...
Alors, l'idée, c'est notre promesse, c'est de pouvoir livrer les clients en moins d'un mois. là où la concurrence, on va dire, du bassin méditerranéen est capable de livrer les clients en 60 à 90 jours, et où les fabricants asiatiques livrent plutôt sur des délais qui varient entre 4 et 6 mois.
Oui, donc ça permettrait aux entrepreneurs d'être beaucoup plus flexibles. Et donc du coup, ça veut dire là encore des nouveaux métiers, quoi, des métiers peut-être plus qualifiés, moins industrialisés. Enfin, il y aurait une évolution à ce niveau-là également.
Tout à fait. Nous, la 3D, on l'intègre de la conception des produits à la fabrication. C'est-à-dire qu'on va concevoir des modèles en trois dimensions, qu'on va mettre au point de manière virtuelle sur des avatars avec des logiciels adaptés. Aujourd'hui, il est tout à fait performant. Et puis, lorsque le produit est mis au point, bon, évidemment, à un moment donné, on doit valider un échantillon physique. Mais plutôt que d'échanger 5-10 échantillons avant de lancer la production, là, on a besoin d'en faire qu'un seul. Et puis, comme tout se fait de manière digitale, on gagne énormément de temps sur la mise au point du produit.
Ben voilà comment on innove du côté de Saint-Malo en Bretagne, avec des matières premières qui sont sourcées en France et en Europe. Merci beaucoup, Basile Riquier. Je rappelle que vous êtes à la tête de 3D Tech, une très très belle entreprise. Merci et longue vie à cette belle innovation.
À très bientôt.
Bon dimanche, au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Et il est l'heure de retrouver Thibaut qui est en studio avec nous après son aventure sur le GR20. Pas trop fatigué, Thibaut ?
Pas fatigué, mais je suis là en pleine forme avec vous en studio, tout va bien.
Alors Thibaut, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui pour cette rentrée ?
Vous vous souvenez, avant l'été, j'étais allé me balader du côté de Cesson-Sévigné. Je vais parler des cartes Aptans.
Du côté de Rennes.
Du côté de Rennes, exactement, avec le fameux PDG qui nous avait raconté un peu tout ça, comment il avait remonté cette marque iconique. Eh bien, j'ai également visité leur atelier de création. Un atelier rempli de cartables, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et là-bas, j'ai pu discuter avec celle qui conçoit ces nouvelles gammes, toutes les gammes. Elle s'appelle Anissa, et je lui ai demandé de prendre un cartable au hasard et de me le décrire. Écoutez.
Alors, voilà le cartable, je vous le montre. Alors, comme vous pouvez voir, il est renforcé de toutes parts. Si on commence par le dos, on peut voir un dos moussé, avec des bretelles, bien évidemment, ergonomiques, sur lesquelles on a mis des réfléchissants. Puisque c'est un cartable, bien évidemment, qui doit répondre à des normes de sécurité. Donc, vous avez des réfléchissants derrière, sur les côtés et devant. Si je vous le montre par l'avant, vous pouvez voir qu'il y a une ganse. C'est ce qui renforce ce cartable au niveau du rabat. Nous avons également un fond rigide et renforcé, résistant à l'abrasion, qui est agrémenté de 4 coins, qui permet à ce cartable d'être véritablement résistant à l'usure pour les petits écoliers pleins d'énergie.
Et moi, je vois l'étiquette iconique. Moi, je me souviens de mon cartable TAS. Et je vois cette fameuse étiquette.
C'est la marque de fabrique, c'est une étiquette porte-nom. D'ailleurs, l'enfant, s'il le souhaite, peut aller sur notre site internet pour choisir et personnaliser son étiquette et la changer au gré des années. Il y a également la fameuse boucle, donc issue de cette histoire un peu de maroquinier. C'est une boucle qui permet de régler le cartable en fonction de son poids.
Alors, ce cartable, comment il a évolué depuis 78, depuis la naissance de la marque ?
Alors, la grande différence se fait notamment sur le poids, puisque à l'époque, il pesait très très lourd. Aujourd'hui, on est sur des cartables qui pèsent moins d'un kilo. Aujourd'hui, tous les cartables TAN sont fabriqués à base de polyester recyclé. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et caractérise cette gamme. On travaille avec des spécialistes de cette matière-là.
On le visualise bien, hein, ce cartable TAN. D'ailleurs, je pense que Thibaut, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de parents. Hein.
Oui, le cartable avec la petite étiquette dont je parlais tout à l'heure. Ouais.
On a compris comment il est fait donc en matériaux recyclés, mais comment ça se passe pour la fabrication ? Vous avez pu y aller là aussi ?
Alors, Anissa m'a expliqué ça, on ne l'imagine pas, mais il y a plein d'opérations, c'est très très long, c'est impressionnant. Bah, le mieux, c'est d'écouter Anissa nous expliquer ça.
C'est très compliqué, il y a énormément d'opérations, c'est un cartable qui a énormément de composants pour répondre justement aux exigences de sécurité et de robustesse. Et il y a environ 150 opérations pour un cartable TANS.
On ne va pas les lister toutes, mais par exemple, les opérations les plus importantes.
Alors vous avez énormément d'opérations en termes de surpiqûres, on a des surpiqûres de renfort, vous avez aussi des opérations au niveau du rivetage. Puisqu'on met des rivets pour notamment maintenir la poignée, d'ailleurs une poignée qui est également renforcée. Vous avez énormément de piqûres et d'empiècements différents qui caractérisent le cartable TAN, c'est qui fait qu'il est, qui se différencie des autres. Un cartable standard aujourd'hui, il faut à peu près 40 opérations, quand pour un cartable TAN aujourd'hui nous sommes à 150 opérations, donc c'est énorme.
Je crois savoir que vous avez plein de projets en développement.
Alors effectivement, on souhaite aujourd'hui élargir la gamme TAN, c'est nous adresser aux plus petits. Donc on a en projet de répondre à une demande qui est assez forte de la part de la communauté et des aficionados de TANS. Ouais. Et donc on développe une surprise pour la fin de l'année avec des cartables amusants, ludiques, qui vont s'appeler l'école des TANS.
J'imagine une cartable plus léger ?
Alors c'est surtout que ce sera plus adapté à des petits allant à la crèche et à la maternelle. Ce sera léger, fonctionnel aussi, parce qu'on travaille avec des équipes d'institutrices qui nous ont donné les clés pour répondre à la demande des tout-petits.
Je pense que certains parents seront heureux de pouvoir justement acheter pour leurs enfants ce cartable TAN en souvenir de leur propre rentrée scolaire, notamment je pense aux tout-petits. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle découverte. On se retrouve la semaine prochaine.
Si vous voulez.
Merci à vous également, chers auditeurs. Je vous souhaite un très, très beau dimanche à l'écoute de Sud Radio, bien évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble de nouveaux talents.